Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, assurance chômage du travail à tout prix. C'était presque couru d'avance. Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord cet après-midi lors de l'ultime séance de négociation sur l'assurance chômage. Constat d'échec après plus de 3 mois de discussion entre syndicats de salariés et organisations patronales. C'est sur la question des contrats courts que les discussions ont buté. Pour dissuader les entreprises d'y recourir de manière excessive, un système de bonus-malus était proposé. Son principe, une modulation des cotisations patronales en fonction du taux de recours au CDD. Refus catégorique du patronat, le gouvernement va donc reprendre le dossier en main. Ses objectifs au gouvernement sont clairs, il s'agit de faire faire des économies à l'assurance chômage de l'ordre de 1 milliard d'euros par an d'ici la fin du quinquennat, 1 milliard d'euros par an minimum. Le contexte devrait l'y aider dans la mesure où le taux de chômage diminue. Mais ce sont les règles d'indemnisation qui sont dans le viseur de l'exécutif. Des règles jugées trop généreuses et qui auraient pour effet pervers de dissuader les chômeurs de revenir vers l'emploi. Alors cet effet est-il avéré? Qu'en est-il de la qualité des emplois proposés? Et assurance chômage du travail à tout prix? C'est le thème de la discussion de ce soir en compagnie de deux invités. Bertrand Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, membre de l'Institut Montaigne, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Je renvoie à votre livre « Pour en finir avec le chômage » que vous aviez publié il y a quelques années de cela, qu'on peut trouver dans la collection Pluriel. Et pour discuter avec vous, Samuel Churin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédien, membre de la coordination des intermittents et précaires. Je précise que vous n'en êtes pas le porte-parole, mais vous en êtes membre. Et que vous avez publié, il y a quelques jours de cela, une lettre ouverte à Emmanuel Macron, une réponse à sa lettre aux Français, lettre qu'on peut retrouver sur le site du magazine Politis. Alors on va parler de ces règles d'indemnisation chômage et de ce que cela dit aussi peut-être de notre façon de considérer la place de l'emploi, la place du travail dans le fonctionnement de la société française. Mais je voudrais quand même qu'on commence par ce mouvement important, mouvement social, mouvement politique, qui rythme l'actualité française depuis déjà pas mal de semaines, celui des Gilets jaunes, avec la thématique de l'emploi et du chômage très peu présente dans ce mouvement. Et la réponse qui est celle du grand débat avec les quatre grands thèmes qui ont été choisis là aussi par l'exécutif, même chose, même constat, on n'y retrouve pas non plus la thématique de l'emploi. Comment est-ce que vous expliquez cette absence, Bertrand Martineau?
Alors, c'est pas forcément extrêmement surprenant. Il y a d'autres moments d'histoire récente où la thématique du pouvoir d'achat l'a emporté largement sur la thématique du chômage. Je prends l'exemple de 2007. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Le chômage avait décru fortement à partir de 2005-2006. Et on est arrivé à un chômage qui était à peu près à 7% de la population active, c'est-à-dire le plus bas depuis le début des années 80. Bon. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans les sondages? Puisqu'il y a des sondages qui, régulièrement, c'est l'IFOP qui fait ça et qui, tous les mois ou tous les trimestres, je ne sais plus, demande aux Français, un échantillon de Français, quelles sont leurs préoccupations numéro un. Et on s'était aperçu qu'à la fin, à partir de 2006, c'est la thématique du pouvoir d'achat qui l'emportait avant le chômage. Et c'est exactement ce qu'on observe là, c'est-à-dire que quand le chômage, grossièrement, tombe en dessous de 8%, la thématique du pouvoir d'achat l'emporte sur la thématique du chômage. Ce qui montre qu'en fait, le degré d'acceptabilité du chômage dans la population française est extrêmement élevé, donc c'est pas une découverte, ce n'est pas nouveau.
Est-ce que ça vous surprend aussi peu, vous également, Samuel Churin?
Non, ça me surprend pas. Il a beaucoup été question quand même d'emploi et de pouvoir d'achat, mais effectivement, si le chômage n'a pas été évoqué autour de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que les chômeurs sont considérés comme des parias, sont invisibles, se rendent invisibles. C'est-à-dire qu'autour des... Je suis allé autour des ronds-points, les chômeurs préféraient parler des 5 euros d'appel en moins plutôt que de leurs conditions de chômeur de plus en plus dégradées. Il se trouve qu'effectivement, pour le monde politique, un travailleur est un client. C'est-à-dire qu'on va à la sortie des usines quand l'usine va fermer, hein, pour faire en sorte que l'usine ne ferme pas. Voilà. Mais une fois que ce travailleur passe, donc ce travailleur victime, considéré comme victime de la part des politiques en général, devient chômeur, alors il devient coupable. Il devient coupable d'être au chômage et on l'accuse d'être responsables du chômage.
Et quelle,
c'est la pensée générale, les chômeurs sont responsables du chômage.
Quelle preuve, disons, de cette culpabilité, vous voyez, vous, Samuel Churin, dans les termes de la négociation qui ont eu lieu ces dernières semaines sur la question de l'indemnisation. C'est-à-dire, alors, est-ce que dans ce qui est proposé, il y a justement des signes de, voilà, une façon de culpabiliser les chômeurs?
Ah, mais bien sûr, il n'y a que ça. C'est-à-dire que déjà, cette négociation est une honte parce qu'il y a une lettre de cadrage du gouvernement qui réclame 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans sur les plus pauvres. D'accord ? Donc on tape sur les plus pauvres et en plus on cible. On cible particulièrement les travailleurs, les chômeurs qui sont à temps partiel. C'est cela qu'on cible. Donc c'est un mensonge d'État, puisque Emmanuel Macron voulait développer la flexi-sécurité. Là, il développe la flexibilité à outrance. Avec la loi El Khomri renforcée, on facilite les licenciements et donc on facilite certaines fluidités de l'emploi. Et donc on facilite la flexibilité. Et en revanche, on casse le petit filet de sécurité qu'il y avait, à savoir l'assurance chômage. Les chiffres sont édifiants. Il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Il faut arrêter de parler de privilèges. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Et il y a la moitié des chômeurs indemnisés qui touchent moins de 950 euros par mois. Bon, alors on en est là. Et malgré ça, le gouvernement fait une lettre de cadrage, que le MEDEF accepte évidemment, avec 4 milliards d'euros d'économies réclamées en 3 ans sur les plus pauvres. C'est un massacre. Et de ça, effectivement, autour des ronds-points, on n'en entend pas parler, hélas, parce que les chômeurs sont honteux d'être chômeurs. Et je leur dis, relevez la tête.
Voilà, juste pour que le dialogue puisse bien exister, parce que vous avez dit beaucoup de choses déjà dans cette intervention. Je vais laisser répondre Bertrand Martineau. Je ne sais pas s'il y a des points en particulier. Après, on va y revenir à la fois sur les économies qui sont demandées, à la fois sur la question des contrats courts, à la fois sur le fait que l'on puisse cumuler des périodes d'activité avec des périodes de chômage. Et puis peut-être sur ce que vous dites, c'est-à-dire 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Bertrand Martineau.
Oui, alors, moi j'ai des points avec lesquels je serais assez d'accord avec M. Churin. Je reprends totalement un terme qui est celui d'invisibilité. Les chômeurs dans la société française sont invisibles. Quand bien même, je rappelle quand même, en moyenne depuis le début des années 80, c'est 9% de la population active. Ce qui nous place quand même, avec l'Italie, dans les plus mauvais élèves des grands pays occidentaux. Donc c'est quand même pas un petit sujet. Invisible, c'est-à-dire qu'effectivement, et je reprends exactement ce qu'il vient de dire, à part effectivement les cas de fermeture d'usine, où là c'est médiatique, télégénique, et que vous avez tout de suite un politique important qui se déplace et qui éventuellement utilise l'argent du contribuable pour essayer de sauver une usine qui n'est pas rentable, et donc c'est le contribuable qui va finir par payer au lieu du capitaliste. En fait, à part ces cas, qui sont ultra minoritaires, puisqu'encore une fois, ce ne sont pas les fermetures d'usines, aussi dramatiques elles soient socialement, qui font statistiquement le chômage. Ce qui fait statistiquement le chômage, ce sont essentiellement les gens qui sont en situation précaire et qui alternent des situations de chômage et d'emploi. Donc concrètement, les fins de CDD, c'est ça qui fait le flux d'entrée au chômage, fondamentalement. Ce ne sont pas les licenciements économiques, et ce sont aussi évidemment les ruptures conventionnelles, mais ce ne sont pas majoritairement les licenciements économiques, et encore moins les licenciements économiques de masse, qui sont ultra minoritaires finalement dans les entrées au chômage. Même si ce sont socialement souvent des catastrophes. Y compris d'ailleurs sur le plan des territoires. Donc voilà. Donc effectivement, les chômeurs sont invisibles. Je trouve que c'est un très bon terme.
Est-ce qu'ils sont maltraités ?
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a la volonté de tous les gouvernements successifs, du MEDEF, de tous les méchants capitalistes, etc., de victimiser les chômeurs. Je n'irai pas jusque-là. J'en veux pour preuve que notre système d'indemnisation est quand même un des plus favorables du monde. Je ne dirais pas généreux, parce qu'effectivement, les chiffres que Monsieur Churin sont exacts. La moyenne d'indemnisation du chômage, c'est 1050 euros net.
Mais la médiane est à 950
euros. Tout à fait.
Euros.
Et donc, on peut quand même pas considérer que ce sont des rémunérations importantes. Évidemment. Donc, on va pas dire que la situation des chômeurs est enviable dans notre pays. Simplement, en comparaison internationale, le système français est particulièrement favorable. Non pas en termes de niveau de l'indemnisation, qui est à peu près dans la moyenne européenne, mais en termes de capacité d'éligibilité, c'est-à-dire de facilité à rentrer dans le système, et de durée aussi des indemnisations, qui va jusqu'à 3 ans en France pour les seniors, 2 ans dans le droit commun, qui sont des dispositions quand même particulièrement favorables. Donc, on a finalement un système qui est assez pervers, c'est que d'un côté, on a une indemnisation qui est plutôt favorable, et en tout cas, objectivement, plus favorable que dans les autres pays, et en même temps, on a un désintérêt général de la société société pour la question du chômage et un désintérêt finalement qui se traduit y compris dans la crise des gilets jaunes, qui est que dès que le chômage passe en dessous de 9%, en gros, ça ne devient plus un objet politique de rang 1.
Samuel Churin, quand vous dites que les chômeurs sont maltraités, est-ce que cette maltraitance, vous la voyez dans les projets de réforme des conditions d'indemnisation de l'assurance chômage, ou bien est-ce que c'est déjà dans le système tel qu'il existe aujourd'hui? Comme le disait Bertrand Martineau, pour entrer dans ce système d'indemnisation, c'est plutôt assez favorable par rapport à d'autres pays. Non. Est-ce qu'on ne peut pas au moins reconnaître à ce système que d'offrir quand même une protection, même si elle est peut-être pas suffisante, à ceux qui sont privés d'emploi?
Non, mais c'est une blague. L'histoire de favorable, c'est quand même une... Enfin, pour moi, c'est une blague. Si on est d'accord sur le fait que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, on ne peut pas dire que c'est favorable. On peut dire que c'est totalement défavorable. Il faudrait que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés, évidemment. Donc c'est totalement défavorable. Et au 1er janvier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décret qui est passé pour contrôler davantage les chômeurs, pour les forcer à accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix.
Donc, des offres raisonnables, hein, ce sont les termes.
Non.
Ce sont les offres qui sont considérées comme raisonnables dans le projet personnalité d'accompagnement Pôle emploi qui est négocié entre le conseiller de Pôle emploi et le chômeur. Pôle emploi, c'est rarement un père fouettard.
Je vous renvoie au film de moi, Daniel Blake, de Ken Loach, parce qu'on y arrive. Alors, les conseillers Pôle emploi sont de moins en moins nombreux. En revanche, ce qui a été très fortement augmenté, c'est le nombre de contrôleurs à Pôle emploi, qui ne sont pas là pour conseiller, puisque la France est un pays où il y a le moins de conseillers quasiment en Europe. Par contre, on a augmenté le nombre de contrôleurs. Bien. Et en fait, l'offre raisonnable d'emploi, je suis désolé, monsieur Martineau, mais elle n'existe plus. Puisque avant, il y avait un dispositif qui faisait que le chômeur pouvait refuser un emploi qui était inférieur au salaire qu'il avait l'habitude d'avoir. C'est vrai. Maintenant, cette chose-là a été sabrée, flinguée. Ce qui fait qu'actuellement, un chômeur doit accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix.
Compatible avec sa qualification.
Même ça, c'est bidon. Il devra accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix parce qu'au niveau de la qualification, c'est tellement large au niveau du terme qu'il devra accepter n'importe quoi. Bien. Et là, tout l'enjeu, il est là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et vraiment, j'aimerais prendre un temps là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Nicolas Sarkozy, par exemple, opposait le smicard qui se lève tôt au chômeur qui se lève tard, c'est évidemment monstrueux, mais il avait tort pour deux raisons. Pour deux raisons, parce que premièrement, c'est souvent la même personne, parce qu'il y a un tiers des chômeurs qui ont des petits boulots à côté, donc voilà. Et puis, et donc on ne peut pas opposer les deux. Et puis, il faut bien comprendre que, et c'est ça, à mon avis, que certains gilets jaunes n'ont pas compris en disant « il faut récompenser le travail et pas le chômage ». C'est que toutes les enquêtes montrent la même chose en Europe. À chaque fois que vous attaquez les droits des chômeurs, vous attaquez à chaque fois les droits des salariés qui sont dans l'emploi stable. Pourquoi ? Il s'agit du lien de subordination, qui est de plus en plus tendu. Et c'est ça que cherche la classe dirigeante, à savoir que le lien qui lie l'employeur à son salarié soit de plus en plus tendu. Vous comprenez bien que si l'assurance chômage, c'est l'horreur, le salarié va s'accrocher à son emploi à tout prix. Il n'aura plus de possibilité de dire non pour des cadences infernales, pour des salaires qui n'en sont pas. Il devra s'accrocher à son emploi à tout prix. Donc, faut bien comprendre.
Donc, quand on joue sur l'assurance chômage,
le droit des chômeurs, c'est comme ça partout en Europe. L'attaque de droit des chômeurs, ça a conséquence directe la baisse généralisée des salaires. Quand on touche les chômeurs, on touche les salaires.
Je ne veux pas vous interrompre à chacune de vos interventions, mais je voudrais vraiment que vous discutiez.
Je vais au bout pour finir ce raisonnement.
Vraiment brièvement, parce que sinon il n'y a pas d'échange. D'accord, c'est un peu dommage.
Je suis d'accord. La dernière phrase avec ça, c'est je prends le cas des sans-papiers, ceux qui sont venus sur mes façades pour ravaler l'immeuble. Ils étaient payés au lance-pierre. Eux, comme ils n'ont aucun droit, ce sont des esclaves modernes obligés d'accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix. Et c'est ce que recherchent le MEDEF, l'État, la classe dirigeante et les libéraux. accepter n'importe quel emploi à n'importe quel prix, avec des conditions lamentables.
Bon. Bertrand Martineau.
Oui, alors, bon, on a une sorte de dérive du débat vers des questions plus générales sur le salariat, le lien de subordination, etc. Bon, moi je fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a un complot du grand capital avec le patron, le gouvernement, les gouvernements successifs, etc. pour abaisser les chômeurs, abaisser le salariat, rendre la vie aux gens le plus difficile possible.
C'est pourtant ce qui se passe.
Et exploiter les gens comme à l'époque de Karl Marx, où je rappelle, l'ouvrier travaillait quand même 3000 heures par an. Bon, on n'est pas tout à fait sur ce même registre. Moi, je voudrais revenir.
Un film rêvé sous le capitalisme de Sophie Bruneau, un documentaire remarquable sur les cauchemars.
Regardez les films
Bertrand Martineau.
Les films de Ken Loach sur l'Angleterre et vous verrez que la condition du chômeur en Angleterre a quelque chose de bien plus terrible que la condition du chômeur français.
Et si on compare l'Angleterre au Soudan, l'Angleterre, c'est formidable.
Non mais d'accord. J'essaie de revenir à quelques éléments objectifs. Peut-être que même là-dessus, nous ne serons pas d'accord, mais j'essaie de me raccrocher à quelques éléments objectifs. La France a des filets de protection sociale que l'on peut parfaitement juger totalement insuffisants, mais qui sont objectivement, statistiquement, vous pouvez prendre de toutes les statistiques, tous les calculs dans tous les sens, qui sont très supérieurs à la plupart des autres pays de l'OCDE, et même par beaucoup d'aspects supérieurs à ce qui se passe maintenant dans les pays scandinaves. Bon, c'est de manière générale. Ensuite, que si on regarde l'assurance chômage, effectivement, il n'y a qu'à peu près la moitié, un peu moins de la moitié des personnes qui sont couvertes. Enfin, ça dépend si on intègre la SS, mais enfin, l'assurance chômage, vous avez raison, c'est à peu près 4 sur 10. Bon, non pas parce qu'elle ne couvre pas bien, mais tout simplement parce qu'on a un phénomène de chômage de longue durée et de chômage récurrent en France qui est extrême et qu'il faut combattre. Mais vous ne pouvez pas demander à une assurance chômage de tout faire et de pallier tous les problèmes qui existent sur le marché du travail. Objectivement, vous avez en France 3 éléments qui sont tout à fait supérieurs en termes de protection à tous les autres pays développés, qui sont les conditions d'entrée dans l'assurance chômage qui sont 4 mois sur les 28 derniers mois, qui sont les droits rechargeables, c'est-à-dire, je dis pour les auditeurs, à chaque fois que vous reprenez un travail, vous rechargez immédiatement de nouveaux droits, et donc...
Vous prolongez votre...
Exactement.
La limite de durée de votre indemnisation.
Exactement. Donc ça, c'est
même si elle est très très mauvaise.
Le deuxième élément, ça c'était un élément très favorable. Ensuite, vous avez... Troisième élément, quand même, très objectif aussi, c'est la durée maximale de l'indemnisation. Je rappelle que c'est 2 ans ou 3 ans en France, c'est 1 an en Allemagne, c'est 6 mois en Angleterre, c'est beaucoup moins dans la plupart des pays ou la quasi-totalité des pays.
Bon. Et du coup, est-ce que vous diriez, Bertrand Martineau, et comme ça me permettra aussi de faire réagir à ce que vous dites, Samuel Surin, est-ce que vous considérez que ces conditions d'indemnisation du chômage en France sont des freins au retour à l'emploi, puisque un des arguments justement qui est développé par le gouvernement actuel et qui préside à cette réforme de l'assurance chômage, c'est de dire qu'il y a peut-être des conditions d'indemnisation trop favorables, en tout cas qui n'incitent pas suffisamment à retrouver un emploi.
Alors, je vais répondre à la question, je voulais juste répondre d'abord à l'autre point rapidement qui a été évoqué, c'est les contrôles. Alors, les contrôles, là aussi, il y a 2 versions. Il y a une vision un peu complotiste qui est qu'on veut vraiment faire des économies de force sur le dos des chômeurs qui seraient évidemment tous des victimes. Il y a un autre élément et qui d'ailleurs est présent.
C'est pas un complot. Il y a bien depuis le 1er janvier un durcissement du contrôle des chômeurs.
Mais c'est pas un durcissement. Le contrôle n'existait pas avant.
Non, mais bien sûr qu'il existait.
Il n'existait pas.
Mais
non.
Bien sûr qu'il existait.
Non. Savez-vous combien il y avait de sanctions?
Non, mais attendez. Attendez, monsieur, les contrôles, c'est une honte. C'est une honte. Actuellement, les statistiques sont claires. Il y a 85% des chômeurs qui, de fait, remplissaient toutes les cases de recherche d'emploi.
On parle des 15%.
Les 15% qui restent, n'étaient pas indemnisés, ne sont pas indemnisés. D'accord ? Les 15% qui restent ne sont pas indemnisés.
Une partie seulement.
Ne sont pas indemnisés. La plupart des 15% qui restent ne sont pas indemnisés.
La moitié.
Et monsieur, attendez.
Vous avez parlé du contrôle, vous ne m'avez pas laissé même une minute ou deux pour parler.
Bon. Là, vous parlez depuis longtemps.
Non, attendez, vous avez parlé longtemps aussi. Bon, donc, si vous voulez, on partait d'une situation où, en 2017, il y a eu 40. Faut quand même le savoir, il y a eu 40 sanctions pour refus de 2 offres raisonnables d'emploi. 40. Bon, voilà. Maintenant, la question du contrôle, pour moi, n'est pas une question de taper sur les gens, de victimiser les gens, c'est une question élémentaire de justice sociale, et je crois que les Français y sont très, très favorables. C'est simplement l'équilibre des droits et des devoirs. C'est-à-dire que vous avez l'immense majorité, je suis d'accord avec M. Chouin, d'ailleurs il y a une étude de Pôle emploi qui a été faite, qui montre qu'il n'y avait que 14% des gens contrôlés qui ne recherchent pas activement de l'emploi. 14%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 14%. Et donc la question est de savoir si en contrepartie d'une indemnisation chômage, on demande effectivement aux gens de rechercher un emploi ou pas. Sachant que dans la grande majorité des cas, vous avez des gens effectivement qui sont désespérés, qui envoient 150 ou 200 CV qui ne trouvent pas du boulot, mais vous avez une minorité aussi qui abuse entre deux CDD, qui abuse entre deux contrats d'intérim. Ce sont des choses, ou parfois des cadres qui se prennent un ou deux mois de vacances entre deux emplois. Ce sont des choses qui arrivent et il y a une dimension de justice sociale. Donc, ce décret, il ne durcit pas les contrôles, il introduit des contrôles qui aujourd'hui, pour des raisons techniques que je ne vais pas déployer, n'existaient pas.
Alors, sur cette question, et puis après je reviendrai sur les effets ou pas des conditions d'indemnisation des chômeurs, mais peut-être que pour qu'on essaie d'aborder point par point, parce que là, comme à chacune de vos interventions, ce qui est un peu normal, mais il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, ça complique un petit peu, me semble-t-il, le dialogue. Bref, vous évoquez par exemple, Bertrand Martineau, la nécessité, si j'ai bien compris, d'avoir une contrepartie en échange d'une indemnisation. Ben
c'est pas une nécessité, c'est la loi.
C'est la loi.
C'est la loi. Il y a une obligation de recherche d'emploi.
Est-ce qu'en tout cas l'idée d'une contrepartie est quelque chose qui vous semble problématique, Samuel Churin?
Oui, pour plusieurs.
Je suis indemnisé, donc oui. J'ai un droit, c'est celui d'être indemnisé. J'ai un devoir, c'est celui de chercher de l'emploi.
Encore une fois, le chômeur n'est pas responsable du chômage, mais pour plusieurs raisons. Premièrement. La politique d'emploi à tout prix, dont on parle, hein, d'emploi à tout prix, coûte 120 milliards d'euros par an. 120 milliards d'euros par an à l'État français. Hein, en CICE, chiffre d'ARES, donc le Direction de l'Animation Recherche Études
du ministère du Travail.
Okay, 122, en 2015, 122 milliards d'euros par an. Au nom de cette politique d'emploi à tout prix.
Mais vous mettez quoi dans ces 122 milliards?
Il y a toutes les aides, les pensions fiscales, etc. Voilà, 122 milliards d'euros par an. Alors, je dis que ces 122 milliards d'euros par an pour subventionner l'emploi à tout prix, on pourrait s'en servir pour subventionner le chômage. Ça, c'est la première chose. Du moins des droits sociaux supérieurs. Bien. Parce que, dans ces emplois à tout prix, on subventionne des trucs qui servent à rien. Enfin, je veux dire, le CICE, ça a servi au fonds de pension, ça a servi aux marges, ça a servi aux rentiers, ça n'a pas servi à l'emploi, hein. Et quand on donne à Alstom, du fric à Alstom pour faire des TGV qui rouleront à 120 km/h dans le sud de la France, des trains, qui seront des trains régionaux pour sauver quelques emplois d'Alstom, ça ne sert à rien.
Donc, s'il y a de l'argent à trouver, si on peut le trouver là,
Bien sûr, mais c'est une volonté politique de réactiver les gens pour les mettre dans un emploi de merde qu'ils n'auront pas choisi. Parce que il y a des gens, heureusement, qui sont très heureux dans leur emploi, mais la souffrance au travail est énorme. Et ce qu'on force là, non pas à mettre les gens dans la qualification dans lequel ils sont et pourquoi ils ont été formés, c'est vraiment la phrase de Macron, t'es horticulteur, t'as pas de boulot, tu traverses ta rue, t'en trouves.
Mais pardonnez-moi, Samuel Churin, est-ce que la souffrance au chômage, elle n'est pas encore plus importante que la souffrance au travail?
Eh bien, elle est plus importante parce que l'assurance chômage est très mal indemnisée. Et puis parce que la société regarde les chômeurs comme des parias. Parce que je voudrais développer une petite chose, mais très rapide. Et c'est là où nous ne serons pas d'accord, parce que j'ai vu vos vidéos, et nous ne serons absolument pas d'accord. C'est que le plein emploi est un mensonge. Le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. N'existe pas et n'a jamais existé. À chaque fois que vous entendez le mot plein emploi, vous pouvez dire c'est un mensonge. Dans les années 50, il y avait un plein emploi totalement fictif. Totalement fictif. À savoir, il y avait la moitié de la population qui n'était pas employée, à savoir, en gros, les femmes. Et c'est là où il faut vraiment faire la différence entre travail et emploi. Il y a tout un tas de gens qui travaillent, on va dire que l'emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paye. Hein ? Il y a tout un tas de gens qui travaillent. Les femmes au foyer, qui élèvent leurs enfants, les étudiants, ça travaille. Les retraités, ça travaille énormément, mais qui ne sont pas employés, qui échappent à la fiche de paye. Nous, intermittents du spectacle, quand j'apprends mon texte, je travaille et pourtant je ne suis pas employé. Et il y a tout un tas de gens, les pigistes, etc., tout un tas de gens qui travaillent, qui ne sont pas employés, qui bossent dans les associations, etc. Si vous enlevez le travail hors emploi, le pays s'écroule. D'accord ? Cette chose-là, elle n'est absolument jamais reconnue. D'accord ? Et c'est au nom du plein emploi qu'on aboutit à une tragédie sociale parce qu'il y a 6 millions de chômeurs. D'accord ? Même si on trouve demain 2 millions d'emplois, j'ai une question à poser à M. Martineau. Qu'est-ce qu'on fait des 4 millions qui restent? Qu'est-ce qu'on fait des 4 millions qui restent? Est-ce qu'on les laisse dans la plus grande précarité? Est-ce qu'on continue à dire, oui, l'assurance chômage en France, c'est quand même pas mal par rapport aux autres pays, etc., etc.
Et bien, puisque vous avez la question à lui poser,
je suis désolé.
Écoutons sa réponse.
Bien. Alors, Bertrand Martineau.
Je pourrais reprendre la main après?
Oui, bien sûr. Bah, il nous reste un quart d'heure, ça passe très vite.
J'ai noté à la volée quelques expressions. Il faut pas subventionner l'emploi, faut subventionner le chômage. Bon, je ne commande pas. Quelque chose qui est plus intéressant.
Le fait est, Bertrand Martineau, et vous avez été en poste.
Mais il vaut mieux subventionner pour qu'il y ait des emplois, même si on peut contester
les politiques de l'emploi, ce sont des politiques qui, comment dire, qui drainent énormément, énormément d'argent.
J'ai pas dit qu'il fallait subventionner le chômage, j'ai dit que cet argent mis dans l'emploi pouvait servir pour remplir le soi-disant déficit de l'assurance chômage.
Oui, Bertrand Martineau.
Bon, tous ces allègements, ces ICE, etc., ont pour objectif de baisser le coût du travail au niveau du SMIC et de le passer de 15 euros par heure, s'il n'y avait pas tous ces allègements, à environ 10 euros de l'heure.
Bon. Et puisque vous êtes pour la baisse du SMIC. Vous êtes pour la
Pour la baisse du SMIC, je suis justement pour la baisse des charges sociales au niveau du SMIC pour éviter de baisser le SMIC tête.
Vous avez écrit un livre où vous expliquez que vous êtes pour la baisse du SMIC.
Non, absolument pas. Mais non. Bah, 2013, mais non, absolument pas. J'étais pour les allègements de charges. Et pour
laissons
le CIC.
Poursuivre.
Bon. Donc, c'est pas des charges, c'est des tout simplement, si vous faites cotisation sociale, c'est du salaire social.
Samuel Chouin, comme Bertrand Martineau vous laisse parler à chaque fois.
Si vous retirez tous ces allègements que vous jugez inutiles, qui font que le SMIC est à 10 euros de l'heure, si vous le passez brutalement à 15 euros de l'heure, vous allez avoir une catastrophe sur le marché du travail, vous allez avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître.
Bon, cela dit, on fait une émission sur le SMIC.
Cela dit, avec l'argent que vous économiserez, effectivement, vous pourriez payer 800 000 chômeurs de plus. Je ne suis pas sûr qu'on aurait beaucoup avancé. Alors, maintenant, vous avez dit le plein emploi est un mensonge. Alors, c'est amusant. Le plein emploi, y compris avec l'allongement de la durée du travail, donc les seniors qui trouvent du travail, y compris avec la hausse du taux d'activité des femmes, vous le trouvez au Danemark, en Suède, en Autriche, en Allemagne, qui ne sont pas des pays qui sont... Alors, je ne parle pas du Royaume-Uni et des États-Unis, parce que je ne veux pas être accusé d'être le grand Satan, mais vous avez des pays qui, effectivement, sont en plein emploi, donc le plein emploi existe, il n'est pas un mensonge. Il se trouve qu'en France, vous dites qu'on fait des politiques au nom du plein emploi. Alors, c'est amusant, parce que le plein emploi en France, il n'existe pas, en gros, depuis 1974, donc je ne sais pas où vous avez vu des politiques au nom du plein emploi.
C'est quand même l'objectif qui est visé.
Alors, il existe dans tous les pays dont vous parlez. Mais le problème de la France, je vais vous expliquer. Le problème de la France, c'est que c'est la double peine. C'est-à-dire que si on avait le choix, Monsieur Churin, entre un pays où il y a beaucoup de chômage et peu de précarité, et avec des hauts salaires, et un pays où il y aurait très peu de chômage, voire le plein emploi, et une précarité abominable avec des très très faibles salaires, effectivement, le débat pourrait se poser. Mais le problème, c'est qu'en France, on a les deux, on a la double peine. C'est ça que vous ne voulez pas voir. On a à la fois 9% de chômage de manière structurelle et en plus, on a de la précarité comme c'est pas possible, avec des emplois courts comme c'est pas possible et un pouvoir d'achat et des salaires qui sont en berne. C'est ça la vérité de la France. C'est la double peine. Donc moi, je voudrais bien choisir entre deux mots, mais le problème, c'est qu'on a les deux à la fois. Voilà. Et donc, on est dans une situation qui est globalement assez peu enviable. Et c'est vrai que des pays comme le Danemark, la Suède, l'Autriche, qui sont quand même pas des pays qui assassinent le pauvre, le prolétaire, c'est quand même... C'est pour ça, encore une fois, je ne parle même pas de l'Allemagne, parce que ça... Je vais t'accuser de tous les mots. Mais voilà, donc vous dites quand même des choses étrangères. Le plein emploi n'existe pas, le plein emploi est un mensonge.
Je peux répondre à ça.
Je suis désolé. Alors, ça dépend de la définition qu'on a au plein emploi, mais moi, définition du plein emploi, c'est un taux de chômage extrêmement bas, de l'ordre de 3 à 4%, et un taux d'activité, y compris des femmes et des seniors qui est très élevé.
Très bien.
Bon, si on est d'accord sur cette définition, eh ben, je suis désolé, il y a tout un tas de pays qui sont autour de nous, qui sont des pays qui
ne
sont pas des pays du capitalisme ultralibéral et archi-sauvage, qui sont au plein emploi.
Monsieur Martineau,
la réponse de Samuel Churin.
Soyons sérieux. Soyons sérieux un petit peu, parce que là, vous pouvez, si vous allez sur le plein emploi en Allemagne, par exemple, c'est totalement risible. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a un record de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que
et alors, c'est le plan. C'est un autre sujet.
Et
vous
alors,
avez raison.
C'est un autre sujet.
Non, c'est pas un record. Il y a pire.
C'est
pas un record.
Attendez.
Ça dépend.
C'est un autre sujet. C'est ça que je dénonce. Parce que.
Et en Danemark et en Suède.
Travailleurs pauvres. C'est ça que je dénonce. Parce que.
Et au nom du plein emploi, il n'y a pas de travailleurs pauvres en France. Il n'y a pas de travailleurs pauvres en France.
Attendez, monsieur.
Je suis en train de vous dire qu'il y a la double peine en France.
Au nom du plein emploi en Allemagne, les gens sont obligés d'accepter n'importe quel petit job à n'importe quel prix. Ils font deux ou trois jobs. Ils sont même pas un SMIC, au niveau du SMIC en France. Donc effectivement, ça, c'est une vue de l'esprit. Parce que ça, c'est une fiction totale. C'est-à-dire que cette histoire de plein emploi, effectivement, en France, le jour où on forcera les chômeurs à faire 2 heures par semaine, ils sortiront des statistiques du chômage et il y aura une espèce de fiction de plein emploi.
Mais alors, permettez-moi de vous arrêter tous les deux. Excusez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi un petit peu, parce que moi, mon métier, par exemple, c'est d'animer des débats et c'est aussi de poser quelques questions de temps en temps. Juste, je voudrais revenir à l'actualité, mais c'est totalement en lien avec ce que vous êtes en train de dire, l'un et l'autre, finalement, sur... Il ne suffit pas aussi d'avoir des politiques de l'emploi, il faut aussi voir quels sont les emplois qui sont proposés. Il y avait dans les négociations, par exemple, même si ces négociations n'ont pas abouti pour l'instant entre les partenaires sociaux, cette idée d'un bonus-malus où les cotisations patronales seraient modulées en fonction de leur niveau, de leur recours à des contrats courts. L'idée étant que ça coûterait plus cher à une entreprise qui... à un recours important à ces contrats courts. Est-ce que ça, par exemple, c'est pas une bonne chose, Samuel Churin, c'est-à-dire une mesure qui, a priori, vise à limiter ou à réduire la précarité lorsqu'on a un emploi, c'est-à-dire avoir des contrats beaucoup plus longs.
Mais non, écoutez, c'est...
Parce que c'est ce qui est défendu par les syndicats dans cette négociation.
Mais c'est totalement nul, parce que imaginez un bonus. Bonus, ça voudrait dire que ceux qui emploient des gens en CDI vont payer encore moins de cotisations salariales, qui ne sont pas des charges, comme le dit monsieur.
Ce sont les plus élevés du monde.
Salaire socialisé.
C'est les plus élevés du monde.
Donc, qui devraient être encore plus fortes.
On est en concurrence
avec
la Belgique.
Donc voilà. Et des malus, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet emploi précaire, il est structurel. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui travaillent que le vendredi et que le samedi et qui ont besoin de cette flexibilité. Si on prend dans notre secteur, dans le secteur du spectacle, les petites compagnies ne peuvent pas se permettre d'avoir des permanents à l'année. C'est structurel. Donc si on leur met des malus, ces petites compagnies vont énormément souffrir. Ce qui va souffrir dans cette histoire-là, c'est les petites boîtes qui travaillent de manière événementielle, quelques jours par semaine, et qui structurellement ont besoin d'emplois courts. En revanche, les grosses boîtes qui pourraient employer des gens en CDI et qui jouent avec cette histoire et emploient des gens en CDD quand ils pourraient les employer en CDI. Eux, ils vont continuer parce que l'amende ne sera pas assez importante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, ça ne réglera absolument pas le problème si ce n'est flinguer les plus petits.
Alors pour le coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bertrand Martineau? Ça ne réglera pas le problème de la précarité, alors, cette histoire de bonus-malus.
Cette défense des petites boîtes qui usent, abusent et de manière absolument ignoble parfois de la précarité est assez touchante dans la bouche de M. Churin.
J'ai dit que c'était structurel, c'est pas parce que c'est des petites boîtes, ça peut être de grosses boîtes, j'ai dit c'est structurel. Ouais. Celui qui fait des banquiers le vendredi et le samedi soir, il n'emploie pas les gens le lundi, le mardi, le mercredi. Je dis que c'est structurel.
Non, d'accord.
Et que cette flexibilité-là, elle peut être juste si elle est accompagnée de sécurité. Nous, ce qu'on veut, c'est une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi.
Alors peut-être
à partir du moment où il y a le filet de sécurité, la flexibilité, il n'y a pas de problème.
Peut-être que Bertrand Martineau
Cette question du bonus-malus. Bon, si c'est présenté comme un bonus-malus uniquement sur les contrats courts, je pense que c'est idiot. On peut très bien recueillir au contrat court sans que ça cause de problème, parce qu'il y a des gens qui enchaînent des contrats courts qui ne se retrouvent pas à l'assurance chômage, qui coûtent peu cher à l'assurance chômage. En revanche, quand une entreprise licencie un senior de 60 ans, qu'elle n'a jamais formé, et on sait que le gars, il a encore 2 ou 3 ans à travailler, il ne retrouvera jamais de boulot, elle coûte un argent, un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, à l'assurance chômage. Et je pense que cette entreprise devrait peut-être payer plus à l'assurance chômage qu'une entreprise qui fait des CDD ou de l'intérim, mais avec des gens qui ne se retrouvent pas finalement à l'assurance chômage parce qu'ils sont restés employables. Donc le problème n'est pas de faire un bonus-malus sur les contrats courts, mais un bonus-malus en fonction de ce que l'entreprise coûte effectivement à l'assurance chômage. Donc premier point. Deuxième point, pour que le système, ça tous les économistes vous le diront, pour que le système soit vraiment économiquement intelligent, il faudrait en fait, comme aux États-Unis, faire payer à l'entreprise une partie, 20 ou 30%, de ce qu'elle coûte effectivement à l'assurance chômage. Et non pas faire une usine à gaz comme propose le gouvernement avec des référentiels par branche, etc. Parce que là, effectivement, comme dit M. Churin, il va y avoir des effets pervers sur un certain nombre d'entreprises. Et par ailleurs, dans bonus-malus, il y a aussi bonus. parce que le patronat, le MEDEF, n'arrête pas de parler du malus. Bah oui, c'est vrai qu'en augmentant les charges, on risque de détruire les emplois, mais le MEDEF ne dit pas aussi qu'il y aurait des bonus, c'est-à-dire qu'il y aurait des boîtes qui, avec cette, par hypothèse, autant que ceux qui ont un malus, qui auraient une baisse du coût du travail, ce qui serait plutôt bien pour l'emploi. Donc, sous condition que ça se fasse de manière intelligente, c'est-à-dire faire payer à l'entreprise une partie, 20 ou 30% de ce qu'elle coûte effectivement à l'assurance chômage, avec des comptes individuels par entreprise, c'est ce qui est fait aux États-Unis, ça marche très bien depuis 1930 d'ailleurs, eh bien, on peut avoir quelque chose qui incite les entreprises dans leur politique RH à limiter au maximum le recours abusif aux contrats courts et à former leurs salariés en interne pour que, si il y a rupture du contrat de travail, ils ne se retrouvent pas durablement au chômage. Donc, à maintenir leur employabilité, c'est de très bonnes incitations sur les entreprises.
On est presque au terme de cette émission. Il y a une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais finalement, vous n'avez pas eu le temps l'un et l'autre d'y répondre, mais qui me semble essentielle par rapport au débat actuel. Est-ce que vous considérez, alors je vais commencer par vous, Bertrand Martineau, que le système aujourd'hui d'indemnisation du chômage freine le retour à l'emploi? Est-ce que c'est une incitation à rester au chômage, comme on peut le lire et comme on a pu l'entendre, par exemple, dans la bouche du Premier ministre?
Alors, ce n'est pas la cause essentielle du chômage. Ça fait partie, effectivement, des causes pour lesquelles le chômage est élevé en France. Il y a si on rentre dans le détail du système d'indemnisation du chômage, il y a à la fois du côté des chômeurs, mais aussi du côté des entreprises qui usent et abusent de ce système, qui entre deux CDD finalement permettent à prendre des vacances à la personne et ensuite réembauchent la personne après le CDD, après quelques semaines de chômage. Hein, donc un certain nombre d'entreprises se payent sur l'Unédic des comportements qui contribuent finalement au chômage. Plutôt que de garder la personne quelques semaines de plus, elles l'envoient au chômage pendant quelques semaines, payées par la collectivité, donc par l'Unédic. Donc ce sont des comportements répréhensibles, et il y a des chômeurs effectivement qui abusent. C'est une minorité, mais il y a des abus effectivement, et le système qu'on a rappelé, c'est-à-dire de rechargement des droits automatiques, plus de cumul entre l'allocation et le chômage, plus les conditions d'éligibilité particulièrement favorables en France, génère des situations où effectivement le chômeur est plutôt incité à rester sur des situations de contrat court, de démissionner facilement, et donc oui, ça contribue, le système d'assurance chômage français contribue au niveau de chômage structurel français, c'est assez évident.
Samuel Churin.
Je ne veux pas revenir sur les termes du chômeur qui abuse, parce que je trouve ça assez obscène en fait. Vraiment, je trouve ça obscène. Voilà, vous pourriez
c'est
parler
une minorité.
De vous pourriez parler de tout ce qui est fiscalité, question fiscale et tout ce qui part à l'étranger. Mais pas des pauvres qui abusent.
Mais c'est un peu un
pas
autre
des
sujet.
Pauvres qui abusent. Arrêtons cette chose-là. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable dans des choses comme ça. Mais vraiment, je trouve ça vraiment insupportable.
Parce
c'est
que ça n'existe pas.
Je ne vois pas pourquoi on parle d'incitation, on parle d'économie.
Parce que, monsieur, on est en train de parler de droits attachés à l'emploi. Je pense qu'en France, le Conseil national de la résistance a inventé une grande chose, à savoir le régime général de la sécurité sociale.
Oui, il n'y a pas de chômage à l'époque.
Qui attache des droits à la personne et non pas à l'emploi.
Et les 0,5%
Il faut savoir qu'à chaque fois, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler.
Vous m'avez interrompu très souvent.
Très bien.
Allez, reste une minute. Alors,
il faut savoir qu'à chaque fois qu'on attache des droits à l'emploi, que des droits attachés à la personne, parce que je vous ai entendu parler du CPA, vous parliez de droits attachés à la personne, relayant le discours de Madame El Khomri, le CPA n'est pas du tout, compte personnel d'activité, qui était soi-disant le Graal de la loi El Khomri, n'est pas du tout un droit attaché à la personne. C'est un droit qui est attaché à l'emploi. Et un droit attaché à la personne, par définition, est détaché de l'emploi. Détaché de l'emploi. C'est comme ça qu'on a imaginé le régime général de la sécurité sociale, qui fait qu'un clochard peut aller se faire soigner dans l'hôpital public. Voilà. Il faut, pour sortir ce pays de là où il est, il faut des droits attachés à la personne et détachés de l'emploi.
Et vous proposez une assurance chômage inconditionnelle.
Inconditionnelle.
Ça serait quoi en 30 secondes?
Une assurance chômage pour tout le monde, inconditionnelle. Inconditionnelle, une assurance chômage inconditionnelle, sans condition. Des droits attachés à la personne.
Payé par qui?
Des droits attachés à la personne.
Payé par qui? Le grand capital, j'imagine.
Les
grands capitalistes internationaux.
Très vite. La révolution qui vient. Elle parle de Marx, elle n'est pas marxiste, elle parle de Marx. Hannah Arendt, dans son dernier livre. Ce que Marx a compris, c'est que le travail lui-même avait connu un changement décisif dans le monde moderne. Non seulement il était devenu la source de toute richesse et en conséquence l'origine de toutes les valeurs sociales, mais tous les hommes, quelle que soit leur classe d'origine, étaient tôt ou tard destinés à devenir des travailleurs, et ceux qui ne seraient pas capables de s'adapter à ce processus de travail seraient perçus et jugés par la société comme de simples parasites. On en est exactement là. Les chômeurs doivent se relever. Ce ne sont pas des parasites. Ils ont le droit à des droits inconditionnels.
Eh bien, c'est sur cette phrase qu'on va se quitter ce soir pour un débat qui mériterait peut-être un nouvel épisode qui était absolument passionnant et passionné. Merci en tout cas à tous les deux d'y avoir participé, Samuel Churin et Bertrand Martineau. Et merci à toute l'équipe du Grain d'avoir préparé cette émission.